7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les fleurs sont à l'honneur dans les jardinières. Nous allons apprendre à les planter, à les entretenir, à les préparer pour l'hiver. Pour tout nous dire sur le sujet, nous recevons ce matin Benjamin Perret, paysagiste au Genevay-sur-Cofrane.
Si vous avez des fleurs sur votre balcon ou dans votre jardin, que vous avez des questions à poser à propos de vos belles plantes, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS. Vous tapez RJB, RTN ou RFJ. Vous laissez un espace, votre question et vous l'envoyez au 939.
Et dans notre chronique Pas de salade entre nous, nous nous intéresserons à une petite plante aux grands effets, le thym. On l'utilise en cuisine, mais vous verrez qu'il a d'autres atouts. Soyez les bienvenus.
C'est samedi matin.
Soyez donc les bienvenus dans les jardinières qui ont peut-être un peu d'herbe dans la bouche. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
Les jardinières.
Jardin, ce qui est joli, c'est quand même les fleurs. Il y a celles qui poussent toutes seules et celles qu'on choisit et qu'on fait pousser dans son jardin, dans son bac ou dans un pot. Notre invité ce matin, c'est Benjamin Perret, paysagiste au Genevay-sur-Cofrane. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Merci à vous d'être parmi nous ce matin. Bon, dites-nous Benjamin, c'est quoi la fleur qu'il faut absolument avoir dans son jardin ou sur son balcon et pourquoi ?
Bah, disons qu'il y en a en vérité plein de sortes, c'est-à-dire que on peut fonctionner en fonction des saisons. Si on commence au printemps, on peut aller sur des plantations de bulbes qu'on aura fait préalablement en automne, avec des plantations de primevère, de violette, de bellis. Après coup, on peut aller au niveau du mois de mai, passer sur les annuels, tout ce qui est de plantation de géranium, de bégonia, de tagette. Il en existe encore plein de sortes, et en fonction de la durée, de l'altitude, et de l'ensoleillement et des températures, ben on pourra switcher sur les plantations d'automne au niveau des chrysanthèmes, des choux d'ornement, et après on arrive un petit peu dans la saison morte, donc au niveau du gel l'hiver et de la neige, donc on sera un petit peu en stand-by, quoi.
Benjamin, on va commencer par parler donc des fleurs de balcon. On voit encore et toujours les fameux géraniums. Mais rassurez-nous, on peut planter d'autres fleurs sur son balcon ?
On en a plein de sortes, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment plein de sortes. Et au niveau des géraniums, il en existe. Bah, c'est une plante annuelle qu'on peut obtenir à partir environ de la mi-mai chez les horticulteurs. Et généralement, ils ont des dizaines de sortes à disposition. Donc, il faut un petit peu respecter les hauteurs, pour faire des aménagements autour de ces bacs et pots. Et ce qui fait qu'on a un choix immense, quoi. Il faut se laisser un petit peu porter par l'imagination.
Et en plus, justement, de tenir en compte des hauteurs, etc. pour les fleurs, de quoi d'autre doit-on tenir compte si on veut fleurir un peu le balcon ?
Alors, ce qui est très important, c'est au niveau du choix des bacs, des hauteurs. Ça, c'est déjà le premier lieu. Donc, on doit choisir le bac d'une certaine grandeur. En fonction aussi de l'esthétisme, au niveau du choix des matériaux, on peut avoir des bacs en bois, des bacs en métaux, en béton, en plastique. On a vraiment un choix qui est vraiment immense, de type contemporain ou beaucoup plus classique. Et ça, c'est déjà la première raison. La deuxième chose, j'aurais à dire par rapport au terreau de plantation, quoi. Ce qui est très important dans un bac, c'est le drainage, quoi. Donc, au niveau de l'installation de ce bac, il faudra mettre un petit peu d'argile expansée au fond pour le drainage de l'eau, pour évacuer l'excès d'eau. Ensuite, mettre un géotextile qu'on peut trouver dans les jardineries tout à fait communément, quoi. Et ensuite, apporter un terreau, si possible, spécifique aux fleurs qu'on veut planter, quoi.
Vous avez parlé des bacs, hein, toutes sortes de bacs. Moi, je vais dans mon magasin, là, je vois, il y en a en fer, en terre cuite, en plastique. C'est qu'une question d'esthétique ? Ou bien c'est mieux un que l'autre pour les plantes ?
Non, c'est en principe, c'est quasiment que de l'esthétisme, quoi.
Oh.
On a les pots de fleurs. Alors du coup, vous êtes contente, Mylène, vous êtes allée chercher
oui,
vos pots.
Oui, j'ai pris un bras.
Alors il manque la terre. Hein. Est-ce qu'on peut la chercher Elle aime bien aller la chercher chez le voisin, Mylène, mais est-ce qu'on peut aller la chercher dans la forêt ou bien est-ce qu'il faut quelque chose de spécial, un terreau spécial?
Alors, il faudra quand même éviter d'aller le chercher en forêt parce que ça ne sera pas forcément spécifique. C'est-à-dire que une plantation dans des bacs, ça demande beaucoup, beaucoup d'entretien, de suivi. Pas énormément de temps, mais toujours beaucoup de petites périodes. Et généralement, un terreau de bac, si on va dans les spécificités, il sera toujours composé en partie de terre végétale, de compost, des fois avec un petit peu de tourbe ou de succédané de tourbe, parce que la tourbe, on ne peut plus trop l'exploiter, quoi. Et surtout mettre aussi un petit peu d'engrais quoi, pour que la plante ait sa nourriture pendant sa période de végétation. Hein.
Bon, on a le pot, la terre. Une autre question nous survient maintenant. Est-ce que justement on peut mélanger différentes variétés de fleurs dans un même pot?
Mais parfaitement. Il faut faire des essais. C'est-à-dire que si je donne un exemple pour les plantations d'automne, pour le printemps suivant au niveau des bulbes, on peut faire des plantations de bulbes en profondeur et regarnir sur l'extérieur au niveau de prime vert et de violette qu'on va garder toute la saison morte et puis qui vont se réveiller en fait au printemps. Quoi. Donc c'est un exemple. Quoi.
Y a-t-il juste des fleurs qui se marient plus que d'autres ou bien c'est vraiment à nous de faire nos propres essais?
Disons que on peut quand même varier. Il y a certaines choses qui sont certes à éviter, mais globalement, on a une très grande marge de manœuvre.
Benjamin, on rappelle, vous êtes paysagiste au Genevay-sur-Cofrane. On parle de fleurs en votre compagnie ce matin. Et dans un instant, il sera question d'entretien de ces fameuses fleurs. Et vous pouvez, on rappelle, hein, poser vos questions. Qui nous rappelle comment on pose les questions?
Moi.
Oui, d'accord, ça.
Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par SMS. Vous tapez RJB, RTN ou RFJ. Vous laissez un espace, vous mettez votre question et vous l'envoyez au 939. Vous pouvez également le faire par téléphone. Éline, vous voulez nous dire comment?
Bah, il suffit de taper le 0901 70 20 20. Comme ça, vous pourrez poser directement la question à notre jardinier Benjamin Perret.
8h, les jardinières.
Répondre à nos questions, mais aussi et surtout aux vôtres, nous sommes en compagnie de Benjamin Perret, paysagiste au Genevay-sur-Cofrane.
Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos bacs à fleurs. Les fleurs sont plantées, elles sont belles, elles sentent même bon. Alors Benjamin, est-ce que les fleurs en bac peuvent, entre guillemets, vivre sans nous, ou est-ce qu'on doit les arroser? Si oui, à quelle fréquence?
Ben disons que c'est un point qui est quand même relativement névralgique, c'est-à-dire que le gros problème de ces bacs, c'est l'arrosage. Quoi. Ce qui est très important lors de la plantation, c'est déjà à la plantation même de faire un arrosage abondant pour permettre à la plante de prendre racine. Et en parallèle, on aura mis de l'engrais soit de manière liquide dans un arrosoir où chaque semaine on apporte la nourriture nécessaire, ou le cas échéant, on aura pu mettre un engrais de longue durée pour 2-3 mois de type osmocote qui libère, qui diffuse en fait les éléments nutritifs à mesure que la plante en a besoin.
Elles ont besoin d'autre chose que d'engrais?
D'amour.
Évidemment.
Toujours.
Toujours.
Ah ben, les miennes, elles ne veulent pas être belles, hein, je vous le dis.
Oh, mais non.
Bon, ce qu'il y a d'important aussi, c'est faire un petit peu attention au niveau du climat. C'est pas planter trop tôt, par exemple, pour les annuels, de respecter un petit peu les saints de glace. Parce que dès qu'il y a des températures négatives, bah, les plantes peuvent baisser de régime, voire aller plus loin. Mais disons que globalement, si on respecte un arrosage quand même régulier, ben on ne devrait pas avoir trop de problèmes et puis ça devrait jouer. Quoi.
Les températures, elles sont en baisse maintenant, on l'a remarqué. Hein. Bah oui, c'est l'automne qui arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces fleurs en bac ou en pot? Je peux les traîner de mon balcon à mon intérieur pour qu'elles vivent plus longtemps?
Alors certaines oui, d'autres non. Disons que dans des cas, si vraiment on a la main verte, par exemple pour les géraniums, pour ceux qui sont remontants, hein, pas les ceux qui sont retombants, on peut les sortir du bac et puis les mettre un petit peu dans une cave à l'abri de la lumière, quand même aéré, pas trop froid, et puis on peut les faire survivre en tout cas toute la période hivernale pour les replanter au printemps. Mais disons que ça relève un petit peu de technique, et puis là ben on peut faire des essais, et puis certaines fois ben on a des bonnes surprises.
Et si on pense un peu à l'entretien des fleurs qui ne sont pas en bac et qui devront malheureusement passer l'hiver dehors ou froid, on pense notamment aux rosiers, hein. Comment les préparer pour passer la saison froide et les retrouver en grande forme dès le début du printemps?
Alors, au niveau des rosiers, ce qu'il faut faire extrêmement attention, c'est que bon, si on part chronologiquement depuis la plantation, bon, c'est déjà d'apporter un bon terreau, une bonne fumure, et surtout à la profondeur de plantation du rosier. C'est-à-dire qu'un rosier, il a été formé de deux plantes. Il y a le porte-greffe, qui est au final le système radiculaire, et d'autre part la variété à produire. Et entre les deux, on appelle ça le bourrelet de greffe, et ce bourrelet de greffe doit quand même être enterré, parce que s'il y a un très très gros coup de gel à l'extérieur, bah évidemment le rosier pourra dépérir. Or ça, si on a déjà respecté ces quelques règles, ben généralement, on peut sarcler un petit peu la terre, apporter un petit peu de fumier l'automne, faire un petit peu de couverture, mettre quelques branches de dard, de sapin, pour éviter un petit peu les cases de neige. Et le cas échéant, ben normalement, ça devrait jouer. Après, la neige, ce qu'il y a de bien, c'est que ça a une couverture isolante. Par contre, les excès de gel, ben là, voilà, on ne peut pas aller contre dame nature. Et ça devrait, normalement, si on a respecté ces quelques règles de base, ça devrait jouer.
Il y a des étés qui ne ressemblent pas aux autres. Hein, et puis, un peu comme cet été, nos rosiers, ils ont donné que peu de fleurs. Et puis, si on veut des rosiers, bien fournis, est-ce que c'est maintenant qu'il faut agir? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, disons que c'est peut-être pas forcément maintenant, je dirais que c'est plus au printemps, c'est-à-dire que globalement, quand il y a des à-coups de sec, bah, évidemment, arroser les rosiers, ça c'est toute plante a besoin d'eau pour survivre, comme nous les humains d'ailleurs, et les rosiers aussi, il y a un gros problème des fois, c'est au niveau des maladies et des ravageurs, bah, suivant le climat qu'on a. Si on a des excès d'humidité ou des excès de sec, on peut avoir certaines fois plus des tendances aux ravageurs, des fois aux maladies, et il faut suivre ça de manière très régulière avec peut-être des produits de traitement. On a deux variantes de produits de traitement. Soit on utilise la chimie qui n'est pas forcément à l'ordre du jour actuellement au niveau des mentalités, ou les traitements un petit peu dits bio. Donc on peut trouver certaines choses dans le marché assez aisément dans les jardineries.
Mmh. On parlait de fleurs en pot, hein, donc c'est parfait parce que il y a ces petites roses qu'on plante, ces petits rosiers qu'on peut planter en bac. Alors si par exemple je vois qu'il a un peu fané, mais qu'il reprend à d'autres endroits, je fais quoi de ces roses qui restent un peu flétries?
Alors la fleur en elle-même, quand elle a un petit peu dépéri, on peut la couper pour régénérer le rosier et les. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire techniquement parlant.
Bah ok, merci.
Bah c'est pas si compliqué que ça finalement.
Hein. Bah non,
ça a l'air
non,
tellement
du tout.
Facile quand on nous explique comme ça. Puis après on arrive à la maison, puis on voit tout ça, puis c'est tout.
Mais c'est pour ça qu'on est là aussi le samedi matin.
Benjamin, vous êtes notre invité ce matin. Benjamin Perret, paysagiste au Genevais sur Cofrane. On parle de fleurs. Et dans quelques minutes, on va parler des bulbes. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne bougez pas. Vous allez apprendre plein de choses.
On se retrouve tout à l'heure, donc.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, dans les jardinières, nous parlons des fleurs. L'été touche à sa fin, mais pour certaines fleurs, c'est le début de leur vie. Les crocus, les narcisses et les tulipes sont ce qu'on appelle des plantes à bulbes.
Pour les débutantes comme nous, quand on parle de bulbes, c'est assez vague. Mais heureusement, nous sommes en compagnie de Benjamin Perret, paysagiste au Genevais sur Cofrane, qui se fait un plaisir de répondre à nos questions.
Bon, Benjamin, dites-nous tout. C'est quoi un bulbe?
Alors, tout simplement, c'est l'organe souterrain d'une plante, quoi.
Oui.
Qui contient, en fait, la plante à venir de manière aérienne et les réserves nutritives.
Et ça ressemble à quoi ?
C'est une sorte de... Si on prend un oignon de tulipe, par exemple, bah, il aura la grosseur d'une petite balle de golf, quoi.
Quelle est la saison idéale pour planter ces bulbes ?
Alors, on va commencer gentiment la saison. Donc, à partir de début octobre, je dirais globalement, on va pouvoir se projeter un petit peu dans les achats des bulbes qu'on peut déjà faire maintenant. Et puis, en fonction de temps qu'on a à disposition, d'ici 2-3 semaines, on pourra les mettre en pot aisément. Quoi.
Nous expliquer comment on les met en pot ?
Alors, c'est tout simple. C'est-à-dire que, bon, préalablement, on aura préparé notre matériel, les pots, l'argile expansée dans le pot, le petit géotextile, on pourra mettre déjà une première couche de terreau. Et ce qui est très important aussi au niveau des bulles, pour éviter un petit peu les maladies, on peut acheter dans le commerce une poudre qu'on va mélanger en fait avec ces bulles, qui évitera un petit peu les maladies durant la période de végétation. Alors, ce qui est important, du moment qu'on a fait ces opérations, on peut gentiment placer les bulbes en terre en respectant un petit peu les profondeurs, on va dire de 5 à 6 fois le diamètre d'un bulbe par rapport à la profondeur. Donc, en gros, un oignon de tulipe, on va le mettre en terre à moins 6 et moins 10 cm de profondeur. Après, on rajoute une couche de terreau, on arrose correctement et puis on laisse faire la nature.
Donc, ces bulbes à fleurs, elles ont de la place dans des pots comme pour les fleurs, ou bien justement, il faut prévoir un pot un tout petit peu plus grand que pour des fleurs traditionnelles ?
Non, absolument pas. On peut utiliser aisément les pots qu'on a à disposition. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là.
Et vous avez parlé qu'on plantait les bulbes dans des pots. Est-ce qu'on peut aussi les planter carrément directement dans le jardin ou sur une plate-bande ?
Ah oui, tout à fait. Ça se fait de différentes manières. C'est clair que si on les plante dans le jardin, ce qui est très important, c'est de préparer le lit de plantation, c'est-à-dire de retourner la terre, d'apporter un petit peu de compost, des fois un petit peu de taupe si on en a à disposition, évidemment de l'engrais. Et du moment qu'on aura bien aéré, on les prédispose dans le sol pour voir créer des dessins. Et à ce moment-là, une fois qu'on les a disposés, on prend un petit outil, un petit plantoir, et on les met en terre, quoi, tout simplement. Mais on peut tout à fait les mettre dans le jardin.
Benjamin, j'ai lu sur Internet qu'on pouvait planter les bulbes comme des lasagnes en étage. Vous pouvez nous expliquer ce concept ?
Alors, ce concept, il est relativement simple. C'est-à-dire que au niveau des bulbes, il en existe évidemment plein de sortes, de différentes plantes, de différentes variétés. Et ce qui est très important, c'est de respecter le calendrier en fait de floraison, parce que tous les bulbes ne fleurissent pas en même temps. Et de respecter aussi la grosseur des bulbes. Donc, plus le bulbe est gros, plus on le mettra en fait profondément dans le sol. Donc évidemment dans un bac, on va d'abord mettre les bulbes les plus gros, puis ceux qui pousseront plus tardivement possible. Ensuite, on rajoute une couche de terreau, remettre quelques bulbes et remettre une couche de terreau. On peut aller jusqu'à 3 épaisseurs environ.
Justement, avec l'arrivée de l'automne qui pointe le bout de son nez, comment on est sûr d'avoir des fleurs une fois que le printemps revient ? On doit les arroser régulièrement, ces bulbes ?
Alors, évidemment, il faut les arroser jusqu'à la période du gel. Mais en fonction du temps et des pluies qui risquent de venir quand même plus fréquemment en automne que l'été, à ce moment-là, il faut faire en fonction de la météo. Mais globalement, je dirais jusqu'au gel, il faut arroser régulièrement, pas détremper, mais régulièrement. Et c'est clair que pendant la période de gel, il ne faut plus arroser, il faut laisser en stand-by.
Vous avez parlé tout à l'heure de la neige qui faisait un manteau isolant. Là, vous parlez du gel. S'ils sont dans des bacs, on imagine qu'ils vont avoir super froid. Ils vont résister, ces petits bulbes ?
Normalement, oui, c'est clair que les plantations en bac, de manière générale, sont beaucoup plus sensibles que les plantations en terre. Donc, il y a de forts risques quand il y a des très très gros gels, suivant aux altitudes où on habite, ben, que le bac risque de geler entièrement. Mais on peut les remettre un petit peu contre les façades, les protéger, leur mettre de la toile de jute, enfin les protéger un minimum qui les aidera en fait à mieux survivre en fait pendant la période hivernale.
Voilà, c'est justement ce que je voulais vous demander, s'il fallait leur mettre un petit manteau dessus. Vous aviez répondu voilà. Sans que je vous le demande.
Avec plaisir.
Merci Benjamin, on parle des fleurs ce matin. Vous restez encore avec nous parce que c'est pas encore 8 heures. Donc on est encore ensemble un petit quart d'heure. Vous avez des questions, ça se passe par SMS, hein, les filles?
Ben oui, au 939, vous tapez RJB, RFJ ou RTN. Vous nous envoyez votre petite question et on se fera un plaisir d'y répondre.
Les jardinières.
Ce matin, vous êtes avec les jardinières, j'ai envie de vous dire les belles jardinières. Et ce
évidemment.
Matin, nous sommes intéressés aux fleurs dans les jardinières. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de Benjamin Perret, paysagiste.
Et comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions, soit par SMS pendant l'émission, ou vous tapez RJB, RTN ou RFJ, un espace, votre question, vous envoyez tout ça au 939. Ou alors pendant la semaine, bam, vous avez une question, vous allez sur notre site, vous remplissez le formulaire à disposition, comme l'a fait Muriel de Couvet. Elle nous a envoyé une question que je vais poser directement à Benjamin. Elle nous dit « Je ne réussis pas à garder une orchidée, comment faire ?»
Alors, je dirais que la première chose à faire, bon, suivant l'état de l'orchidée qu'elle a chez elle, je dirais qu'il faudrait déjà commencer par la dépoter. La nettoyer le terreau, l'évacuer donc en compost, racheter de la nouvelle terre d'orchidée et préalablement, bah, si des racines aériennes sont mortes, donc les couper avec un sécateur ou un ciseau, enlever les feuilles fanées, etc. et faire une replantation déjà pour commencer, quoi. Et du moment que c'est replanté, ben disons que au niveau de l'arrosage, c'est un petit peu ça, un petit peu le point névralgique, mis à part l'exposition. Au niveau de l'arrosage, ce qu'elle peut faire éventuellement, c'est de remplir son évier ou d'eau ou bien un seau, de tremper pendant un certain laps de temps, l'égoutter dans un évier annexe. Ça, c'est déjà la première base. Évidemment, une fois par semaine, au niveau de l'arrosage, elle pourra mettre un engrais liquide qui est spécifique aux orchidées. Ça, je dirais que c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est très important, c'est que les orchidées n'aiment pas les courants d'air et aiment beaucoup la lumière. Donc, il faut éviter, surtout quand il y a du mauvais temps, faire l'aération de l'appartement vraiment en ligne directe avec l'orchidée, voire déplacer la plante, aérer et la remettre après, quoi.
Et Muriel nous demandait aussi, elle a reçu un pot de gentiane bleu et un pot d'Edelweiss. Elle demande s'il y a un entretien spécial à leur apporter.
Absolument pas. Il faut les laisser vivre. C'est des vivaces, elles se suffisent à elles-mêmes. Alors, si elle les a reçues, puis qu'éventuellement elle a un jardin, elle peut les dépoter et puis les planter dans une plate-bande, voire peut-être changer de pot si c'est nécessaire, si la gentiane ou l'autre de ces plantes ont beaucoup grandi, à ce moment-là, elle peut prendre un pot plus grand et puis les transplanter. Mais globalement, c'est une plante qui sont relativement rustiques, qu'on trouve à l'état naturel dans les préalpes.
Et justement, Benjamin, l'émission touche bientôt à sa fin, donc on va en profiter pour rappeler un peu en grande ligne des bons conseils pour fleurir son balcon. On commence par quoi pour pouvoir fleurir son balcon, en quelques mots?
Alors, je dirais la première chose, le balcon, il faudra vérifier un petit peu l'exposition, si c'est en plein sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Choisir un bon bac en termes de grandeur, d'hauteur, d'esthétisme, de respecter le drainage au niveau du fond du bac, de respecter le terreau, les abonnements en termes d'éléments nutritifs, et évidemment l'arrosage et accessoirement peut-être le choix des plantes. Si par exemple on est en exposition plein sud, si on a la possibilité de choisir des plantes qui supportent quand même le plein soleil et indirectement le sec, ça sera quand même un avantage sur la pérennité de la plantation.
Vous nous en citez deux, trois là, de ces plantes qui supportent le soleil plein sud?
Bah, disons que, par exemple, au niveau des plantes à massif, bah, le géranium tient, l'étagé tient, les bégonias tiennent aussi. Au niveau des plantes grasses aussi, tout ce qui est sédum, c'est des choses qui tiennent énormément le sec, vu qu'elles ont en elles-mêmes des réserves d'eau. Ça peut être des exemples, quoi.
Donc voilà pour les plantes plein sud. Vous nous rappelez rapidement pour les rosiers?
Alors les rosiers, respecter en fait à la plantation le bourrelet de grève qui doit être quand même légèrement enterré, de respecter évidemment le terreau au niveau des rosiers, de l'abonnement et évidemment l'arrosage régulier. Parce que quand on plante un rosier, on peut l'obtenir soit en pot déjà cultivé dans la terre, ou soit en racinus, que j'ai peut-être omis de dire avant. Et si on l'a en racine nue, faire extrêmement attention à l'arrosage pour que la terre en fait colle aux racines et favorise l'enracinement. C'est extrêmement important.
Merci Benjamin pour tous vos conseils, mais ne bougez pas. On va rester ensemble, on va parler...
Ne bougez pas parce qu'on a rendez-vous avec vous, Mylène, toujours pour la fameuse rubrique Pas de salade, c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous êtes prête?
Oui.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
Au menu.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
Vaut mieux deux fois qu'une. Hein.
Oui, c'est ça. On va parler du thym. Alors les filles, si je vous dis thym, hein, vous pensez à quoi?
À mon teint de peau qui a bien bronzé cet été. Mais à part ça, non, je pense pas à grand-chose.
Alors c'est exactement ce que j'allais dire, mais c'est plutôt au thym ce matin quand je me suis levée que j'avais dans la glace.
Ouh, bon ben, moi j'avais envie de parler de la plante. Plutôt. Hein. Tout d'abord, sachez que le thym pousse très bien en pot sur votre balcon ou carrément sur le bord d'une fenêtre, dans un pot, hein, sur le bord d'une fenêtre, pas simplement sur le bord de la fenêtre. Je précise, cette plante n'a quasiment pas besoin de soins. Le thym peut survivre toute l'année dans un jardin.
Bon, super, maintenant on a du thym. Mais à part le mettre dans ma blanquette de veau, qu'est-ce qu'on peut en faire?
Eh bien, sachez qu'il se marie très bien, par exemple, avec l'abricot ou pour une petite poêlée d'abricot au thym, servie tiède, c'est un régal.
Sinon, pour nous faire saliver, on utilise pourquoi le thym?
Bien sinon, le thym, vous pouvez l'utiliser pour vous soigner. L'automne arrive, puis l'hiver, et avec eux, la grippe. Pour la combattre, rien de mieux qu'une bonne tisane de thym. Et justement, hein, comme je parle de tisane de thym, sachez que cette dernière peut aussi vous sauver la vie lors d'un rencard.
Ah ben dis donc, ça m'intéresse ça, allez-y.
Tout de suite. Le thym ne va pas vous faire un joli thym, vous rendre plus belle ou plus intelligente. Hein. Vous n'avez pas besoin pour ça, Sandra. Le thym, c'est l'ami de votre bouche. Oui. Vous avez une haleine de chacal ce matin et vous ne savez pas quoi faire. Hop, vous concoctez une petite tisane de thym, vous gargarisez avec, vous voilà sauvés. Et puis si c'est votre nez qui est bouché, passez par la case inhalation de tisane de thym, c'est aussi parfait.
Ah bah, je vais donner ça comme conseil à mon petit chouchou, hein, pour l'haleine en tout cas. Bon, et avant que j'attrape mon traditionnel rhume automnal, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on prépare justement une tisane de thym.
Eh bien, c'est facile. On met du thym, une ou deux cuillères à café dans une tasse. On verse de l'eau bouillante dessus. On laisse infuser jusqu'à 10 minutes à couvert. Mettez une petite assiette dessus. Et puis ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Le boire, par exemple. Voilà, vous en savez un peu plus sur ces petites plantes qui, désormais, ne serviront pas qu'à finir en bouquet garni. Voilà, mesdames, j'ai terminé mon bar à thym. voilà. Ouais, merci.
Je continue, c'est mieux le baratin que le tatamar.
Ah bah merci pour ce bulletin d'information, Mylène.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
Voilà les filles, il est déjà temps de se quitter pour aller biner.
Un grand merci à Benjamin Perret d'avoir été notre invité ce matin. Vous pourrez retrouver tous ses conseils sur notre page, sur nos sites internet et bien sûr réécouter toute l'interview.
Un grand merci à vous les filles, merci Benjamin.
Merci.
Et
merci,
on se retrouve pas samedi prochain, la jardinière ce sera Stéphanie la semaine prochaine parce que moi je m'en vais biner vers d'autres monts.
Et la semaine prochaine justement nous serons en compagnie de Pierre-Yves Turcher, c'est dur à prononcer, paysagiste à Tavannes.
Alors, je vous souhaite une belle semaine à tous. Et puis, on vous retrouve, vous autres, à 7h samedi matin pour une nouvelle émission des Jardinières. Belle journée.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
7h, 8h, les Jardinières.